au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour, Mathieu?
Parce qu'on a quatre Daniels en ligne.
On a quatre Daniels en ligne. Moi, j'étais pour dire que c'est quatre fois bonjour parce que, juste pour vous le dire, là, on le sait, il y a des petits problèmes parfois quand on nous écoute en ligne. Ça arrive des fois que le son n'est pas bon. Alors, puis ça, on a l'impression qu'on répète quatre fois la même chose. Bien, c'est à peu près ça. Alors, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. C'est le 23 mars aujourd'hui. Allô, Daniel, que j'entends sourire. Daniel,
Rioux. Ben oui, parce que vous dites, on répète quatre fois. Combien de fois à nos âges, des fois, il faut répéter quatre fois des amis qui ne vont pas se faire vérifier les oreilles?
Ah, je sais pas, hein, c'est vrai.
C'est que c'est fatigant, ça. Puis, tu sais, ils font semblant qu'ils entendent, puis ils disent, oh, je suis juste distrait ou distraite. Elle va te faire examiner les oreilles. Mais quand même. Alors, est de bonne humeur, là, madame?
Oui, de bonne humeur. Moi, j'allais dire que, de toute façon, que dans mon cas, c'est de la surdité sélective. J'en dis pas
oui.
plus. Des fois, quand ça ne me tente pas d'écouter, j'écoute pas.
Ben là, vous êtes aussi bien de m'écouter aujourd'hui.
Non, c'est autre chose. Bon, sérieusement, j'ai travaillé pendant quand même 34 ans dans une salle de rédaction. C'est très bruyant. Moi, quand j'ai commencé, il y avait même les téléscripteurs et les gens tapaient à la machine à écrire. C'était hallucinant. Et les gens parlent beaucoup et je devais me concentrer sur mon travail. J'ai appris à ne pas écouter.
Ah, c'est bien ça, faire le vide, là.
Ouais. Mais par contre, j'ai appris à écouter aussi en faisant de la radio. Alors, ben Daniel, puisqu'on a commencé en te parlant, avant d'aller plus loin, on va parler de quoi dans ta chronique aujourd'hui?
Ben justement, faire le vide. Puis faire le vide, des fois, ça nous amène à s'ennuyer, hein, parce qu'on a toujours le goût de combler ce vide-là.
Oui.
Puis dans un article que j'ai fouillé dans mes archives, on aurait du temps libre illimité, mais souvent gaspillé. Et c'est ça le sujet de ma chronique, entre autres, et aussi du prix de l'essence.
Ah oui, parce que ça, c'est d'actualité aussi avec ce qui se passe. Avec ce qui se passe en Iran, au Moyen-Orient, et puis ce fameux détroit d'Ormuz. Alors là, je fais même pas de texte de nouvelles là-dessus dans notre revue de presse parce que Donald Trump dit une chose et son contraire. Mais là, ce qu'on pense, c'est la dernière déclaration, c'est qu'il donnerait 5 jours pour conclure une entente avec l'Iran avant de décider de bombarder. Tout éclat cette partie du monde pour leur faire comprendre qu'il veut que ça soit ouvert. Cela dit, tout ça, ben, ça fait augmenter les prix du pétrole et justement le prix du baril de pétrole, le prix de l'essence. Il y avait aussi Gisèle Pellico hier, tout le monde en parle quand même. C'était toute une entrevue et une femme qu'on admire avec son livre et la joie de vivre. T'as regardé l'entrevue hier, toi?
Oui, au complet, absolument. Je la trouvais très calme. Sa joie de vivre aussi, qu'elle était de sa mère et de sa grand-mère. Quelle épreuve elle a vécue, cette femme-là, ça n'a pas de bon sens.
C'était en tout cas très, très touchant. Alors, je vous invite, c'est disponible sur le site web et le rattrapage de Radio-Canada.
Puis aussi, elle a ouvert la porte à des situations qui existent déjà.
Ouais.
Donc, ça, c'est encore... puis qui se vivent probablement en silence, sans que personne parle. Fait qu'on va espérer qu'il y a des gens qui vont s'ouvrir davantage sur une situation qui est horrible, inimaginable.
Et puis, autrement, aujourd'hui, dans notre émission très chargée, on va parler du bonheur. Tiens, c'est approprié. Festival du bonheur qui revient à Montréal. On va en parler avec la directrice générale, Rossana Bruzzone. Et puis, on va parler aussi des rendez-vous du gris, le groupe de recherche d'intervention sociale de Montréal, qui fait une activité assez spéciale ce week-end, les rendez-vous du gris Montréal. On va en discuter avec la directrice générale, Marie Ouzeau. Et puis, on reçoit la co-commissaire de l'exposition Wayfinders au gré des sens, vraiment intéressante, qui parle donc de ses expériences vécues en situation de handicap. Alors, avec Tamar Tembeck, qui est la co-commissaire. Et on termine avec Maître Valérie Assouline, bâtonnière du barreau de Montréal, pour parler de la journée porte ouverte au Palais de justice de Montréal et à la Cour d'appel. Et ça m'amène à vous parler de météo. Alors, dans le sud du Québec et dans l'est du Québec, en Ontario aussi, on est même dans le nord, ça demeure nuageux. On a des possibilités d'averses de neige. On va encore continuer cette semaine, d'ailleurs. Mais on est quand même un peu plus chaud, autour de zéro à Montréal et Sherbrooke, un peu plus froid vers l'est et le nord. Même chose en Ontario. Dans les provinces de l'Atlantique, imaginez-vous qu'il y a un important épisode de pluie verglaçante qui est prévu sur une partie de la région, notamment en Nouvelle-Écosse, région d'Halifax, entre autres. Puis il y a une tempête hivernale qui est prévue aussi pour le sud-est de Terre-Neuve avec des accumulations de 30 à 50 cm de neige. Mon Dieu, l'hiver est vraiment décidé à nous faire subir ça jusqu'à la toute fin. Et puis ailleurs, ben, le ciel est partiellement nuageux avec de la neige, température froide autour de moins 5 à 0 degrés. Et puis dans les prairies, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, ben, ça se réchauffe avec des passages nuageux, possibilité de neige autour de 4 degrés. Et puis en Colombie-Britannique, ben, c'est du soleil, il fait 11 degrés. Et tout ça m'amène à vous dire que depuis vendredi à 10h45, c'est le printemps.
Michel Fugain, le Big Bazar pour la chanson Le Printemps.
Eh oui, et même ma publication, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai annoncé l'émission de ce matin et puis j'ai choisi une photo de moi où j'étais en train de manger de la tire d'érable. Eh oui, ah, voilà. Bon, alors la Presse Plus ce matin, ben, c'est vraiment, vraiment une triste nouvelle, un terrible accident qui a coûté la vie à deux pilotes canadiens hier soir à l'aéroport de LaGuardia à New York. L'appareil de la compagnie Jazz Aviation, donc opérant sous la bannière Air Canada Express, arrivait de Montréal lorsqu'il a percuté de plein fouet un camion de pompiers alors qu'il s'apprêtait à atterrir. Le véhicule de secours de l'autorité portuaire traversait la piste pour se rendre à un autre incident au moment de l'impact survenu peu avant minuit. Le bilan est lourd. Hein? Outre le décès des deux pilotes, 41 personnes ont été transportées à l'hôpital, dont certaines se trouvent toujours dans un état critique ce matin. Les images du site montrent le nez de l'appareil complètement enfoncé par la violence du choc. Le Conseil national de sécurité des transports des États-Unis a déjà ouvert une enquête pour comprendre pourquoi le camion se trouvait sur la trajectoire de l'avion, alors que les enregistrements révèlent une tentative désespérée de la tour de contrôle pour stopper le véhicule. Alors, l'aéroport LaGuardia demeurera fermé jusqu'à au moins 14 heures aujourd'hui. Alors, si vous prenez des vols, tous les vols vers New York à partir de Montréal ou des autres aéroports, du moins tous les vols qui vont à LaGuardia sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Et l'avion impliqué dans la collision, c'est un CRJ-900. C'est un avion canadien, en fait, un jet capable de transporter 76 passagers. Et puis maintenant, on s'en va en Europe. Excuse-moi, la feuille était mêlée, voilà. On s'en va, pardon. C'est un cri d'alarme que lancent aujourd'hui les organismes communautaires. De plus en plus de femmes enceintes vivent et dorment dans les rues de Montréal et de Longueuil. Une enquête de la presse met en lumière des parcours tragiques marqués par la violence, la toxicomanie et un manque criant de ressources adaptées. En octobre dernier, le décès d'un nouveau-né dans un abribus à Longueuil a tragiquement illustré cette réalité. Les intervenants déplorent un trou de service majeur. Entre la peur de la DPJ et la difficulté d'accès au système de santé, ces femmes, souvent victimes d'agressions, se retrouvent sans aucun suivi périnatal. Les experts qui réclament donc d'urgence des cliniques spécialisées et davantage de logements transitoires pour éviter que d'autres nouveau-nés ne commencent leur vie sur le béton. Au centre d'expertise Rond-Point à Montréal, jusqu'à 50 % des femmes admises chaque année sont en situation d'itinérance visible ou invisible. C'est un lundi de paralysie qui débute dans le secteur social au Québec. Plus de 1600 organismes entament aujourd'hui une séquence de grève de 2 semaines pour dénoncer un budget d'austérité provincial qu'ils qualifient d'austère. Malgré les promesses de reconnaissance formulées durant la pandémie, les travailleurs du milieu de la santé, se disent à bout, hein, A-B-O-U-T-T-E, est méprisé par le gouvernement de François Legault. Le mouvement qui touche 17 régions administratives culminera par un grand rassemblement devant l'Assemblée nationale le 2 avril. Les porte-parole affirment que le sous-financement chronique force désormais les employés du milieu à recourir eux-mêmes aux banques alimentaires. En choisissant la grève, un outil pourtant crève-cœur pour ceux qui aident les plus vulnérables, le milieu veut envoyer un message clair. Sans communautaire, le Québec risque de sombrer dans un véritable chaos social. Le mouvement de contestation prévoit donc des actions de sensibilisation et des fermetures de services qui s'étaleront jusqu'au 2 avril. Et puis, dans les paractualités aujourd'hui, le nom de Colette Bourgogna est synonyme d'excellence en Saskatchewan, et ce n'est pas fini. Déjà membre du Panthéon des sports canadiens, la décuple paralympienne sera intronisée le 26 mars au Temple de l'honneur des Jeux du Canada et du Québec. Des Jeux du Canada à Québec. Cette fois, on ne célèbre pas seulement l'athlète aux 10 médailles, mais la bâtisseuse. Colette est reconnue pour son flair légendaire. Elle a recruté de futurs spécialistes médaillés. Aujourd'hui, on départ là. Peut-être que le redoux ne fonctionne pas avec mes mâchoires aujourd'hui. Alors, Colette est reconnue pour son flair légendaire et a recruté de futurs médaillés comme Brittany Hudak et Crystal Schuchok, simplement en les abordant dans des magasins de grande surface. Aujourd'hui, entraîneuse et mentor, elle continue de transformer le paysage du sport adapté d'un océan à l'autre. Colette Bourgogna a participé à 7 Jeux paralympiques d'hiver et 3 Jeux d'été, un exploit de longévité rare dans le sport de haut niveau. En 2010, lors des Jeux de Vancouver, elle a remporté la toute première médaille canadienne gagnée par une athlète en sol canadien lors de ces Jeux. Dans Lanaudière, l'inquiétude grandit concernant l'avenir du soutien à domicile. Le comité des usagers du sud de Lanaudière et de l'AQDR, l'Assomption, interpelle Santé Québec à la suite de l'octroi de nouveaux contrats à des entreprises privées au détriment de coopératives locales de l'économie sociale. Les organismes craignent une rupture dans la continuité des soins pour plus de 400 usagers vulnérables. Ils réclament un moratoire de 6 mois sur ces contrats et demandent que la qualité des services prime sur la logique marchande. Pour les proches aidants, le message est clair. Sans ce soutien public fort et humain, c'est tout le système de maintien à domicile qui risque de se fragiliser. Plus de 18 000 personnes sont actuellement en attente d'un service de soutien à domicile à travers le Québec.
Mes idées qui tourbillonnent et se cognent, les unes entre les autres. Je suis saturée de mots qui résonnent et qui font toujours dans le désordre. You repeat things I don't understand. Je te blesse à t'en mordre. Les doigts sans vouloir valoir la peine pour que nos ventes se tordent. On se reverra peut-être un jour si je suis pas. Bye.
Superwoman ou Superwoman de Léonie Gray.
Et on va aller voir une autre Superwoman, Danielle Rioux. Salut, Danielle.
Hey, c'est un lourd titre à porter, ça. Hey, Seigneur! Ça, mon Dieu, quand on pense... Non, ben peut-être que je l'étais à un certain moment, là, mais plus maintenant, parce que là, je m'offre du temps libre.
Ben oui, il faut prendre du temps libre. Et tu sais, c'est vrai. Je comprends bien, tu évites les cabines téléphoniques.
Oui, oui, je veux du temps libre. Mais c'est ça, parce que le temps libre, ça veut dire aussi pour des gens, ça veut dire s'ennuyer. Hein? C'est l'art de s'ennuyer. C'est un article, ça a paru il n'y a pas hier, là, mais en 2023, en mai 2023, puis je le garde dans mes archives, puis je le ressors. J'ai dit, tiens, donc, c'est intéressant parce que la journaliste Olivia Lévy avait fait une entrevue avec Olivier Babeau, qui a écrit le livre « La tyrannie du divertissement ». Et d'ailleurs, en faisant une recherche dans Babelio, c'est très, très bien coté. Les gens ont beaucoup appris à travers ce livre « La tyrannie du divertissement ». Mais ça m'amène à vous parler justement de cette fameuse entrevue. On perd en grande partie de notre temps à se divertir. Puis ça nous appauvrit malheureusement intellectuellement et creuse aussi les inégalités. Alors Olivia Lévy pose la question. Vous dites à M. Babeau, vous dites que jamais l'être humain n'a eu autant de temps libre. Parce que sa réponse, c'est le travail ne constitue qu'une part très limitée de notre vie. Au 19e siècle, on va aller en arrière, on travaillait 4000 heures par an. Aujourd'hui, c'est environ 1400, 1600 heures par an. Et l'espérance de vie a aussi augmenté par rapport à ça. Une partie de notre vie libre, sans travail, c'est-à-dire à la retraite, se fait plus tard. Et en France, et dans les années 80, la moyenne de durée de vie à la retraite était de 12 ans. Et aujourd'hui, c'est entre 22 et 26 ans. Donc, du temps à combler, on en a. Autrefois, justement, la vie, c'était du travail avec un peu de loisirs. Si on avait le temps, ou encore si on n'était pas trop fatigué, là, j'ajouterais. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ce sont des loisirs et un peu de travail. L'école ne fait pas partie du travail, c'est ce qu'il note, mais bien du loisir studieux. Pour lui, il y a trois catégories de loisirs. Il y a le loisir studieux, justement, le loisir pour les autres et le loisir populaire. Pour lui, le loisir studieux, ça vient de la Grèce antique qui permet d'apprendre, d'améliorer son esprit et son corps. C'est très large et c'est pratiquer un sport, c'est la lecture, jouer d'un instrument de musique. Il y a aussi la méditation qui entre dans ce loisir. Le scolé, qui veut dire école, ça fait partie des loisirs studieux aussi. Ensuite, il y a le loisir pour les autres. C'est le temps social, le temps passé en famille et avec des amis. Et enfin, il y a le loisir populaire, qui est le divertissement, le loisir passif qui ne permet pas de progresser, mais qui occupe la majorité de notre temps libre. Idéalement, il faudrait partager en trois tiers les trois formes de temps libre, mais c'est le divertissement qui l'absorbe complètement notre temps libre. Alors, c'est là qu'il se dit qu'au niveau intellectuel, ça ne nous enrichit pas toujours. La journaliste lui pose la question, vous écrivez que les loisirs accentuent les inégalités et ce pourquoi? Bien, le temps libre d'une grande partie de la population est absorbé par le divertissement, notamment les fameux réseaux sociaux. La première chose qu'il dit à ses étudiants, c'est qu'ils auront tous le même diplôme, mais qu'ils seront jugés sur la façon dont ils utilisent leur temps libre. Est-ce qu'ils auront créé une association ou fait du bénévolat, fait du sport ou de la musique ou encore appris une langue? Et c'est ce qui va faire la différence peut-être au moment de la recherche d'un emploi, entre autres, ou quand ils se présentent pour appliquer pour une activité ou un bénévolat quelconque, c'est ce que j'ajoute. Alors, pour réussir au 21e siècle, on doit avoir la culture la plus large possible pour mettre en relation les savoirs, c'est ce qu'il affirme. Le degré d'exigence cognitive du monde ne cesse d'augmenter et il est de plus en plus dur de comprendre le monde et d'y être un acteur actif ayant de la valeur ajoutée. Et moi, en lisant cela, je pensais à l'intelligence artificielle aussi, hein, pour valider des connaissances que nous avons, pour voir si ce qu'on nous écrit, c'est vrai. Et c'est là que se creusent justement pour lui les inégalités sociales, car le temps libre d'une grande partie de la population est absorbé, comme je mentionnais, par le divertissement et par le temps passé devant les écrans, la télévision et les réseaux sociaux. plus vous descendez dans l'échelle sociale et plus vous regardez les écrans. C'est ce qu'il affirme. Chez les enfants, le temps d'écran des plus défavorisés est deux fois plus élevé que chez les plus favorisés. C'est quand même pas mal. Mais elle pose la question. Mais justement, nous passons le plus de temps que jamais devant nos écrans. La technologie, pour lui, vide notre cerveau. On a moins de mémoire, et ça, c'est vrai. Quand on nous demande un numéro de téléphone, on ne s'en souvient pas. Il faut vérifier si notre téléphone cellulaire. Donc, on l'utilise, ce téléphone cellulaire, pour se souvenir d'un numéro de téléphone. Donc, on a moins de capacité d'attention. La technologie, pour lui, nous atrophie, mais en même temps, elle rend le monde plus compliqué et exigeant. Et malheureusement, comme humain, on est pris entre les deux. Aujourd'hui, la vie est plus facile avec un temps de travail limité. On s'offre plus de confort, plus de plaisir, mais nous n'étions pas préparés à cela. Et on nous demande d'utiliser cette liberté avec une forme de discipline, mais il faut de l'autodiscipline. Et l'ennui dans tout ça, hein, il est temps d'en parler, ça fait partie de nos temps libres. Hein. Ben, pour lui, c'est très important de s'ennuyer. L'ennui est fécond, donc pour certains, c'est de la créativité. Il y a plein de génies qui ne créeraient peut-être pas leur œuvre aujourd'hui parce qu'ils auraient été distraits. Et il mentionne, il donne un exemple, Marcel Proust, est-ce qu'il aurait eu le temps d'écrire à la recherche du temps perdu? Et à Victor Hugo, à toutes ses œuvres, on pense aux Misérables, et à toutes les autres, et à Léonard de Vinci qui a peint tous ses tableaux, qu'ils n'ont pas tous terminés. On s'entend, mais il y a beaucoup plus écrit que peint, c'est ce que j'ai lu récemment. Donc, ce n'est pas un défaut de talent, mais à cause du temps qu'on gaspille devant nos écrans. Il faut être très motivé aujourd'hui pour mettre de côté toutes les séductions offertes par les écrans, Facebook, TikTok, name it, les réseaux numériques. Il faut une discipline de fer pour arriver à s'isoler et à créer une œuvre. Puis il raconte, puis peut-être que ça va vous référer la même chose à vous, auditeurs, et à Denis Martin et à Mathieu aussi. Il raconte, quand il était petit, le week-end ou en vacances, on passait des heures en voiture et il n'y avait rien d'autre à faire que de regarder le paysage et de ne rien faire. Et quand on est dans le métro ou l'autobus, la facilité est de regarder son téléphone, mais il faudrait se forcer à ne rien faire. Vous savez, à rêvasser, laisser son esprit errer, et qui sait, ce sera peut-être fécond. Hein? Il faut arriver à faire le silence en soi, parce qu'on vit dans un monde où il y a toujours du bruit ou quelque chose qui suscite notre intérêt. Il faut apprendre à s'ennuyer et à féconder l'ennui. C'est comme je vous mentionnais, c'est un livre qui a une note de 4 sur 5 chez Babelio, les critiques, là, les lecteurs qui l'ont lu. Je vous rappelle le titre, c'est « La tyrannie du divertissement », c'est d'Olivier Babeau. Et je pense que c'est, ça serait un livre à lire parce qu'il est assez bien coté, donc une belle référence. Puis aussi, je vous pose
l'éloge en fait de la farniente.
La farniente, rien faire, mais rien faire du tout.
Et je vais faire rire un métier que je suis capable de faire ça.
Ah, mais des fois, il faut que je me fasse une petite discipline, là. Mm-hmm. Mais quand je veux lire, je tasse mes écrans, puis c'est tellement facile. On est drogué à ça, hein. Mm-hmm. Puis, tu sais, je vais lire un peu la presse, puis la presse t'amenait à chercher quelque chose d'autre, puis bon. Mais là, je me fais une discipline. Tu sais, des fois, on dit, j'ai pas le temps de lire. C'est pas vrai. Il faut s'asseoir, puis prendre le temps, s'accorder du temps, faire d'autres choses, ou carrément le silence, hein, puis regarder mm-hmm. les murs, s'offrir, j'appelle, des moments d'éternité. Ça, c'est agréable. Ouais. Puis là, on parle d'essence, on voit dans les marchés que ça fluctue, on passe devant des grandes bannières et on dit, ça a augmenté, dans certaines régions c'est plus bas à certains moments de la journée, oups, ça hausse. Alors il y a Nicolas Bérubé, parce que là on change de sujet complètement, dans la section affaires de dimanche, le 22, donc il parle de la hausse du prix de l'essence à la pompe. Et il dit que tout est relatif si on compare le prix de l'essence aujourd'hui à celui de payé en 2008. Alors, c'est faire le plein est extrêmement bon marché, selon lui. Ben, il dit, vous croyez que je blague? Ben non. Plutôt, il nous réfère en 2008. Le prix à la pompe à Montréal était de 1,51 $ le litre, un record qui déclenchait des crises de bacon chez les automobilistes à l'époque. Et si le prix avait tout simplement suivi l'inflation l'inflation à partir de 2008, il serait aujourd'hui à 2,23 $ le litre. Or, il mentionnait que la semaine dernière, le litre était à 1,78 $ le litre, le prix de l'essence à Montréal, une réduction de 20% en 18 ans. Et il mentionne aussi, sans compter le fait que les Québécois se sont enrichis, le pouvoir d'achat a grimpé d'environ 20% en termes réels après l'inflation depuis 2008. Et selon ses réponses, les a de l'Institut de la statistique du Québec. Alors pour lui, 1,78 $, c'est de la petite bière pour Nicolas Bérubé. Il faudrait que le prix atteigne 2,68 $ le litre pour représenter la même douleur, entre guillemets, pour le portefeuille qu'en 2008. Et lui, il est très heureux de s'être acheté une auto électrique de seconde main en janvier dernier. Donc, il n'est pas là maintenant, c'est fini. Il n'a pas besoin d'être tanné de payer de l'essence. Puis, on se disait, vous et moi, qu'en plus, le prix de l'essence augmente, mais les autos grossissent.
Ah, mais les gens conduisent des chars d'assaut parfois.
Ah, oui. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Donc, ils vont souffrir. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de clés qui vont être remis chez le concessionnaire. J'ose espérer, ou que les gens vont fassent des choix douloureux. Mais bon, c'est la situation que l'on vit partout dans le monde en ce moment. Donc, il faut s'y faire.
Oui, c'est la dure réalité. Puis, à chaque fois qu'il y a une crise comme ça, on se dit, ah, mais si on avait pris le temps de faire, ouais, d'électrifier, de changer notre dépendance. À chaque fois, c'est dès que l'essence se rebaisse, on retourne aux bonnes vieilles habitudes.
Ben, oui, absolument. Puis nous, on en garde une bonne, hein?
Ouais. On en garde une bonne. On a du plaisir à faire de la radio ensemble.
Oui. Merci. On s'écoute la semaine prochaine. On se parle la semaine prochaine.
Tout à fait. Merci beaucoup à toi.
Au revoir.
Alors, après la pause, on va parler justement du Festival du bonheur. Et puis, on va aussi parler des rendez-vous du gris à Montréal. Et un peu plus tard, ben, on va parler de droit. On va parler aussi d'exposition pour les personnes en situation de handicap ou vues par les personnes en situation de handicap. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Je pense, il y a un moment, silence.
la chanson Appelle-moi de Maud Cyr Deschênes.
Mathieu, es-tu heureux, toi?
Absolument.
Ouais, moi aussi, parce que, ben, d'abord, on est heureux parce que c'est le printemps. Alors, le 20 mars dernier, c'était non seulement l'équinoxe du printemps, c'était aussi la Journée internationale du bonheur. Et cela coïncidait avec l'ouverture de la 7e édition du Festival du bonheur à Montréal. Je pense que oui, hein, le bonheur, ça mérite un festival, c'est clair. Cet événement se déploie donc jusqu'au 29 mars et propose une programmation gratuite axée sur la rencontre des cultures et des générations. Et pour en discuter, je reçois Rosana Bruzzoni. Je pense comme ça qu'on prononce votre nom de famille, Rosana.
Oui, Brisonnet, bonjour!
Qui est directrice générale de l'organisme Montréal la plus heureuse. Rosana, donc, bienvenue à Canalem.
Excusez, vous dites?
J'ai dit bienvenue à Canalem, bienvenue à l'émission.
Merci beaucoup, bonne
première
journée à vous.
La question qui se pose, êtes-vous heureuse?
Oui, naturellement, de vivre à Montréal.
Ça s'entend dans votre voix, en tout cas.
Oui, c'est une ville vraiment de rencontres, où il y a un bonheur de proximité, où c'est possible que les générations et les cultures se rencontrent.
Oui. Alors, c'est quoi votre définition du bonheur, Rosana?
Ben, pour moi, le bonheur, c'est le vivre ensemble, en harmonie.
Oui.
Pour moi, c'est ça. Je ne vois pas le bonheur dans la solitude, ni dans l'absence de différence.
Oui.
Le bonheur, pour moi, c'est la diversité, c'est les couleurs et l'harmonie des couleurs aussi. Et c'est pour ça que j'ai cofondé Montréal la plus heureuse, parce que vraiment, on pense que c'est une ville qui offre cette possibilité de se voir ensemble.
Sommes-nous plus ou moins heureux de nos jours?
Comparé à quand?
Comparé à peut-être, par référence, comparons-nous à peu près il y a 10 ans. Est-ce qu'on est plus ou moins heureux qu'il y a 10 ans?
On est différent.
Ouais.
Le bonheur évolue. Je pense que le bonheur évolue, ne reste pas fixe. Et je crois que Montréal, il y a 10 ans, c'est beau que vous me posez cette question, parce que nous, justement, on a créé le premier projet Montréal, la ville la plus heureuse au monde, en 2017. C'était mm-hmm. l'anniversaire de Montréal. Donc, ça fait presque 10 ans. Moi, je trouve que comme dans toutes les relations, il y a une évolution. Donc, on est encore heureux, pas de la même manière, mais on l'est pas moins.
Ben, c'est intéressant d'entendre, parce que parfois, on a l'impression que ça va toujours moins bien, mais parfois, quand on prend le recul, hein, on se rend compte que c'est peut-être pas si mal.
Oui, je pense que Montréal, c'est une ville où il y a beaucoup de solidarité.
Oui.
Et en effet, cette année, on a choisi le thème « Rebondir ensemble » parce qu'on a mis ensemble les idées de nos bénévoles et de nos membres qui avaient l'idée de parler de résilience et parler de solidarité. Donc, on a essayé de mettre ensemble ces deux concepts. On a créé ce thème. Je pense qu'à Montréal, peut-être à cause aussi, ben, en général au Québec, à cause des conditions climatiques qui ne sont pas toujours faciles, on a développé non seulement une résilience, mais une forme d'entraide très forte entre les personnes. Et donc, c'est pour ça qu'on est heureux, parce que même dans les difficultés, on trouve une façon de partager.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut dire que cette année, on a l'impression que l'hiver met notre bonheur durement à l'épreuve. Alors, lancement officiel a eu lieu le 20 mars. Et je note, parce que c'est intéressant, vous avez fait, donc, c'était la Journée internationale du bonheur, mais vous avez tenu une ouverture officielle au Théâtre Rialto. Et là, c'était vraiment intéressant. Il y avait du flamenco, de la danse baladie égyptienne, du dancehall jamaïcain. Pourquoi, en fait, comment une telle diversité de rites de culture, ça s'inscrit donc dans le bonheur?
Oui, alors, ben, selon nous, le multiculturalisme et la rencontre de l'autre sont à la base du bonheur. Et nous, notre devise est pour un bonheur inclusif et durable. Là où l'inclusion n'est pas la tolérance, mais la relation. Et donc, par exemple, les danseuses de dance hall ont interagi avec la danseuse de Baladi. C'était voulu. On a créé des rencontres entre les artistes pour mélanger les différentes formes d'art, les différentes formes de danse. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait pour toutes les formes d'art le plus possible à tous les ans.
Le festival s'inscrit aussi dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme. De quelle manière votre festival contribue-t-il à réduire le racisme et à créer des ponts entre les cultures?
Et justement, au travers de la rencontre entre les cultures, et nous, par exemple, dans la soirée de lancement, on a touché 4 continents et les communautés culturelles qui appartiennent à ces 4 continents. Cette année, il y a une nouveauté, on a pu toucher l'Océanie avec la danse polynésienne et aussi avec un festival australien qui est un festival international de films, surtout pour la jeunesse, qui a lieu en Australie et qui fera d'ailleurs partie de notre prochain événement samedi ou même l'après-midi cinéma.
Précisément. Oui, parce qu'il y aura des films aussi, de courts-métrages Wapikoni, Festival Régénération, en fait. Donc, on s'est intéressé aux réalités des premiers peuples aussi dans le cadre de ce festival.
Oui, nous, on a vraiment un partenariat très solide avec Wapikoni depuis la 2e édition du festival. Donc, maintenant, on est rendu à la 7e. C'est un partenariat qui fonctionne très bien et qui se développe de différentes manières. On a dans notre jury de la section cinéma une personne justement de Premier Peuple qui appartient au réseau de Wapikoni. Normalement, c'est un réalisateur ou une réalisatrice. Cette année, on a Maëlys Flamand. Et puis, l'équipe de Wapikoni nous donne une sélection de films en thème avec le sujet du festival. Donc, cette année, Rebondir ensemble. Il y avait une sélection super belle. Ouais. Moi, je fais une présélection, puis le jury a encore choisi. Et donc, on va avoir une heure de projection entre Wapikoni et le RIF. Voilà, ce festival australien de toute beauté.
Il nous reste à peu près une minute, là, mais le festival se clôture donc le 29 mars avec une exposition de zines réalisée par des aînés de Montréal.
Oui,
donc, ça, c'est signe qu'on peut vieillir dans le bonheur.
Absolument, oui. C'est un projet qu'on a fait avec le financement de Québec Amis des aînés et de Nouveaux Horizons pour les aînés. Et c'est un projet sur 8 arrondissements. On a fait par groupe. On a fait 5 ateliers d'expression artistique joyeuse, donc l'écriture optimiste, la broderie sur photo, la création de bijoux. Il y en a eu pour tous les goûts. Ça a été les aînés qui ont choisi puis qui ont participé aussi à la coordination et ça a abouti à la réalisation de zines, donc de livres auto-édités. Une partie, c'est vraiment des livres d'artistes. Et au même, cette semaine, à partir de demain, on aura une exposition sur la corde à linge et disons le dernier jour du festival, le 29, on aura la présentation, donc il y aura des aînés, on en a eu plus que 230 et il y en aura une représentation qui liront aussi certains textes, qui répondront aux questions, qui auront des kiosques. On occupera vraiment l'espace public du même et d'ailleurs même la sélection de films sera projetée pendant toute la fin de semaine.
Semaine, toujours aux entremêmes. On va devoir s'arrêter là-dessus, Madame Brissonnet.
Oui,
alors, je gracier Rosana Brissonnet. Arrivederci. Merci beaucoup. Puis je
Arrivederci.
Et on peut donc s'informer sur les activités, sur les différentes plateformes du Festival du Bonheur. Merci beaucoup.
Merci. Merci. Bonne journée.
Pedro, 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 Pedro.
Rafaela Cara et sa chanson Pedro.
Pedro, oui, un petit peu de bonheur. Oui, Mathieu, je m'entraîne sur cette musique-là.
Ben oui, c'est certain.
C'est sur ma liste d'entraînement. Bon, on va passer à des choses. Ben, le bonheur, c'est sérieux, mais on va aussi parler d'inclusion dans le bonheur, tiens, pourquoi pas, puisque nous recevons Marie Ouzeau, directrice générale du Gris Montréal, pour nous parler de la toute première édition des grands rendez-vous du Gris qui se tiendra donc les 27 et 29 mars au studio TD. Bonjour, Marie Ouzeau.
Bonjour, merci de me recevoir.
Oui, ben oui, on a fait une entrevue sur le bonheur. Je me dis, on va continuer à essayer d'être heureux malgré tout, parce que l'an dernier, il y a une étude de l'organisme Gris là, qui révélait une hausse de l'inconfort chez les jeunes face à la diversité sexuelle. C'est une première en 30 ans. On disait que le malaise face à un ami gay est passé de 25 à 40 % en quelques années. Alors, ces préoccupations-là, est-ce que ça a influencé la création des grands rendez-vous du Gris?
Ben, oui, absolument, en fait, parce que depuis qu'on a pris la mesure de ce malaise grandissant, en fait, ce qu'on veut vraiment envoyer comme message, c'est que on va avoir besoin que tout le monde mette l'épaule à la roue. Bien sûr, les gens des communautés, les organismes communautaires, ça, on fait ça depuis longtemps et on va continuer à le faire. Mais on a besoin que tous les milieux de la société civile, les organisations gouvernementales et puis aussi, bien sûr, les milieux corporatifs prennent conscience de ces mouvements de recul, puis au-delà de la prise de conscience, agissent. Donc, les grands rendez-vous, c'est un peu ça. C'est différentes plateformes, différents événements, dont le fil rouge est toujours de mettre ensemble des gens des communautés et des alliés pour discuter, en fait, des différents angles du travail qu'on peut faire pour l'inclusion et la construction de milieux qui sont ouverts et qui permettent à chacun d'être qui elle est, sans problème, en fait, sans discrimination, sans violence.
On est dans un espèce de climat où les discours masculinistes là, portés par des influenceurs comme Andrew Tate, ça percole jusque dans les écoles et vous êtes en mesure de le mesurer parce que, et mon Dieu, je plais honnête, en mesure de le voir parce que le Gris fait des interventions pour démystifier la diversité sexuelle et de genre dans les écoles. Alors, ça percole, puis on le voit dans les études aussi. Alors, comment un événement festif peut-il servir de rempart contre cette montée de l'intolérance?
Ben, d'abord, de temps en temps, il faut se donner des bouffées d'air, hein, parce que on travaille quand même dans des conditions qui sont pas toujours simples. Nos bénévoles font face dans certaines classes à une certaine forme d'hostilité. On voit des messages aussi dans les questionnaires de recherche que nous compilons qui peuvent être empreints d'incompréhension, certes, mais aussi parfois de violence, voire de haine. Alors, ce n'est pas la majorité des jeunes, mais c'est quand même présent. Donc, de temps en temps, de se donner une bouffée d'air, un peu de queer joy.
Oui, c'est la queer joy, bonne... non, c'est vraiment une belle expression, une bonne idée. Effectivement. Oui, bien, justement... Oui, bien, je vais vous amener à parler de ce week-end-là. Il y a d'ailleurs la journée, je pense, la première journée, ça combine réflexion et humour avec des artistes comme Mona de Grenoble et Coco Béliveau. Oui. C'est quoi l'objectif de mélanger donc un panel d'experts et d'équité en équité, diversité et inclusion, puis des artistes, des humoristes comme ça?
Bien, justement, en fait, c'est dans cette idée que tous les milieux sont concernés. La question de la diversité sexuelle, de la pluralité des genres, c'est une question qui est transversale parce que c'est une question qui touche tout le monde, en fait, hein, que ce soit directement ou indirectement, que ce soit pour nous-mêmes ou pour nos familles, nos entourages. Donc, tous les milieux sont concernés, que ce soit le milieu de travail, le milieu scolaire, les milieux pour personnes âgées, etc. Tous les milieux sont concernés. Donc, commencer par les adultes, je dirais, le milieu de travail, voir quelles sont les initiatives, comment est-ce que les grandes entreprises québécoises, canadiennes, font face à ce vent contraire, bien sûr qui vient des États-Unis, mais qui est déjà bien installé ici. Donc, toutes les questions sur l'équité, la diversité, l'inclusion, on a vu des reculs, mais il y a aussi des compagnies qui continuent à aller de l'avant et c'est eux qu'on a envie d'entendre, en fait. Donc, ça, ce sera le volet corporatif. Ensuite, pour le show d'humour, le spectacle d'humour, là aussi, ce sont des artistes de la communauté, mais pas que. Donc, on voulait, encore une fois, mettre tout le monde ensemble pour permettre à chacun, chacune, d'exprimer son soutien, en fait, à cette vision d'une société québécoise qui est inclusive, qui est porteuse de messages d'espoir. Donc ça, c'est vraiment la journée du vendredi. Et puis le dimanche, oui, il nous manquait qu'un événement famille. Alors, bien sûr, avec Barbada
qui n'aime pas Barbada.
Exactement, puis avec raison. Puis en plus, Barbada, qu'on sait très sensible aux questions qui se passent en milieu scolaire, qui est une alliée de longue date du GRI et qui va nous animer un bingo, j'en suis sûre qu'il va être endiablé. Activité familiale tout à fait accessible. Il reste des places, donc n'hésitez vraiment pas. Il y a déjà pas mal de monde, par exemple. On voit que ça répond à un besoin. Et puis après, un panel sur l'éducation inclusive qui, encore une fois, n'est pas un panel qui est orienté sur les familles homoparentales ou transparentales uniquement, mais bien plus sur quelle que soit la configuration familiale, comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'éducation qu'on offre à nos enfants soit suffisamment ouverte et porteuse pour que si jamais il y a à un moment donné une révélation à faire, que ce soit sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, eh bien, notre enfant se sente à l'aise de le faire et ne soit pas comme beaucoup d'entre nous dans les générations précédentes, mais encore malheureusement maintenant, complètement effrayé à l'idée de faire cette révélation à ses parents. Donc, ça sera le sujet central de ce panel qui va regrouper parents, experts. Donc, ça va être très, très intéressant aussi.
C'est intéressant parce que l'entrevue avant celle-ci, on disait que le bonheur, ben, c'est dans l'inclusion, puis on voit vraiment aussi qu'on est là-dedans au GRI. Ce premier rendez-vous, donc, c'est votre première édition. C'est quoi votre vision à long terme?
Eh bien, en fait, comme pour tout, j'ai envie de dire que la vision à long terme, on aimerait pouvoir arrêter. On aimerait pouvoir mettre la clé dans la porte du GRI et arrêter les événements de ce type parce qu'on n'en aurait plus besoin. Malheureusement, en étant réaliste, je pense que ce ne sera pas le cas tout de suite. Donc, la vision à long terme, eh bien, c'est de continuer à chaque année offrir une plateforme où on pourra permettre à toute personne, encore une fois, directement concernée ou alliée, d'exprimer son soutien à une vision d'une société ouverte et inclusive et de discuter ensemble sur les bonnes pratiques, les choses qui ont fonctionné concrètement sur le terrain pour continuer à avancer dans cette direction.
Marie Ouzeau.
On vous donnera rendez-vous chaque année.
Oui. Marie Ouzeau, donc directrice générale du GRI, le groupe de recherche et d'intervention sociale, qui fait beaucoup de travail de sensibilisation dans les écoles sur les questions de la diversité sexuelle et de genre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je rappelle que les billets pour les grands rendez-vous du GRI des 27 et 29 mars au studio TD, bien, c'est disponible sur les sites web. En fait, le site web du GRI qu'on peut trouver facilement avec son moteur de recherche. Merci beaucoup, Marie.
Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.
Ce matin, je me suis levé du pied droit avant le gauche. À ce qui paraît, ça porte chance, and I could use a dose. J'ai soufflé toutes mes bougies, puis j'ai vraiment fait un vœu. Demande-moi pas ce qui m'a pris, aujourd'hui je me prête au jeu. J'ai fait tirer mon tarot, j'ai même lu mon horoscope. Je sais c'est pas mon genre, mais je voulais juste savoir what's up. Je me disais qu'un peu d'espoir, ça peut pas faire de mal. Moi, j'ai jamais eu la conviction que l'univers me parle. À part la familia, j'ai vécu sans foi ni loi. Y'aura pas de paradis pour les bandits comme toi puis moi. Puis si ma mort est certaine, ma vie est indécise. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend behind the scenes,
si
mais j'ai besoin d'un signe.
Je finis par y arriver. Et entre temps, you know, everything's gonna be okay. Parce que j'ai eu tout faire mal, parce que tout abandonné. Y'a de quoi de spécial si tu regardes au bord du quai. Si je suis on my way, everything's gonna be okay. Everything's gonna
J'avais besoin d'un signe pour savoir que j'étais sur le bon chemin. Any little thing aurait suffi pour me convaincre. Peut-être un vieux proverbe trouvé dans un biscuit chinois. M'en fous si c'est pas vrai tant que ça m'amène jusque chez moi. À ce qui paraît, l'essentiel du message est dans le sous-texte. Mais plus souvent qu'autrement, je l'ai trouvé dans la bouteille. Tu sais qu'est mes rêves, mais y'avait pas de révélation. Si c'est dans mes gènes, ça l'a sauté des générations. Ma grand-mère disait que tout ce qui vient d'ici vient des cieux. Mais pour moi, le ciel, c'est pas la limite, c'est une teinte de bleu. J'ai pas besoin du Holy Spirit pour être saint d'esprit. Ça relève pas du miracle, mais de ce qu'il y a dans le miroir.
Si
quand j'ai besoin d'un signe,
je finis par y arriver. Et entre temps, you know, everything's gonna be okay. Parce que j'ai eu tout fait mal, parce que tout
si tu regardes l'autre bord du quai. Si je suis on my way, everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay.
La chanson signe que je vais laisser terminer. C'était Louds et Stats pour la chanson signe.
J'ai le temps de vous parler de ce lendemain du second cours des second tour des élections municipales. La gauche française parvient à conserver ses principaux bastions malgré une poussée marquée de l'extrême droite. À Paris, le socialiste Emmanuel Grégoire succède à Anne Hidalgo avec plus de 50 % des voix devançant Rachida Dati de la droite. Le nouveau maire a d'ores et déjà positionné la capitale comme le cœur de la résistance face au Rassemblement national en vue de la présidentielle de 2027. Même scénario à Marseille et à Lyon où Benoît Payan et l'écologiste Grégory Doucet conservent leur siège, bien que la victoire lyonnaise soit contestée par Jean-Michel Houla. Si l'extrême droite échoue à s'emparer des grandes métropoles, elle renforce toutefois son ancrage local en remportant des dizaines de villes moyennes, notamment dans le sud, comme Carcassonne ou Nice, avec l'allié Éric Ciotti. On retiendra notamment la défaite majeure de l'ex-premier ministre François Bayrou à Pau dans un scrutin marqué par un taux d'abstention record de 43 %. Journal de Montréal d'hier, on connaît surtout le Botox pour ses propriétés esthétiques, mais une découverte majeure au Centre universitaire McGill, de santé McGill change la donne pour les patients risquant l'amputation des doigts. La dermatologue Elena Netchikporok utilise la toxine botulique pour traiter des ischémies digitales sévères, souvent causées par des maladies auto-immunes comme le phénomène de Raynaud. Elle, en injectant le produit entre les doigts, les vaisseaux sanguins se détendent, rétablissant la circulation dans 90 % des cas étudiés. Pour les patients, ça signifie la fin des douleurs atroces et des ulcères chroniques. Au-delà du soulagement humain, cette procédure de quelques minutes en clinique pourrait transformer les soins hospitaliers en évitant des amputations et des hospitalisations coûteuses. Après la pause, nous allons parler de l'exposition Wayfinders au gré des sens et on va parler aussi de journée porte ouverte à la Cour de Montréal, Palais de justice de Montréal, et à la Cour d'appel du Québec. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Sers-moi, sers-moi, sers-moi.
C'était Mantis et sa chanson Septembre.
Mais on est au mois de mars et l'exposition Wayfinders au gré des sens est là et nous invite à repenser notre rapport à l'espace et aux autres à travers le prisme de la sensorialité et de l'expérience vécue du handicap. L'exposition Wayfinders est présentée donc au Montréal Art Interculturel le mai du 3 avril au 16 mai. Pour en parler, nous recevons Tamar Tembeck, qui est historienne et co-commissaire. Bonjour, bienvenue à l'émission.
Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
Alors, le titre de l'exposition évoque le concept de wayfinding ou l'art de s'orienter dans le contexte actuel de désorientation sociale et environnementale qu'on mentionne notamment dans la présentation de l'événement. Comment l'art peut-il concrètement nous aider à trouver de nouveaux repères?
Oui, alors pour nous, on est trois co-commissaires, Erin Richmond, Audrey-Anne Bouchard et moi-même. Pour nous, c'était vraiment important d'aller regarder les pratiques des artistes pour se donner justement des repères, en fait, dans cette situation actuelle de désorientation politique, environnementale et sociale. Et on a choisi des pratiques qui nous ramènent vers l'expérience de nos sens et des sens multiples. Donc, contrairement à traditionnellement ce qu'on attendrait d'une exposition, on s'attendrait peut-être à ce qu'on mette l'accent sur le visuel. Ben, ici, on va interpeller le toucher, l'ouïe, même l'odorat avec certaines de ses œuvres. Et l'idée, c'est vraiment de se réorienter, de se retrouver autrement grâce à les stimuli que nous amènent toutes ces œuvres.
Alors, l'exposition réunit 10 artistes aux capacités mixtes. Alors, comment les co-commissaires là, dont vous faites partie ont réussi à effacer la frontière traditionnelle entre les pratiques artistiques des personnes en situation de handicap et celles qui ne sont pas en situation de handicap?
Oui, en fait, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur. Nous-mêmes, nous sommes un collectif co-commissarial aux habiletés mixtes, mais qui avons tous de l'expérience de travailler avec avec des œuvres qui sont par des personnes en situation de handicap. Et en fait, nous, on voulait vraiment aller à l'encontre d'une forme de séparation des pratiques qui se retrouve peut-être dans, par exemple, les structures de financement au Conseil des arts. Et pour d'autres raisons, des fois, les communautés sont en silo. Oui. Et pour nous, c'était vraiment intéressant de, au contraire, amener au dialogue, à la rencontre, à l'échange. Donc, on a fait une sélection d'œuvres en essayant d'aborder des œuvres qui, justement, traitent de multisensorialité, des fois des espèces de traductions sensorielles, si on veut, qui passent d'une forme de sens vers un autre, donc du visuel à l'ouïe, par exemple. Et on avait constaté qu'il existait des pratiques qui étaient faites autant par des artistes en situation de handicap que d'autres personnes qui s'intéressent simplement aux enjeux de multisensorialité. Donc, c'est en fait ça qui a animé la rencontre de toutes ces œuvres.
J'ai noté l'œuvre de Piet de Vos qui semble avoir été une étincelle majeure là, pour ce projet. Parce que l'artiste a son alphabet synesthésique. Alors, de quelle manière cet alphabet a-t-il influencé non seulement les œuvres, mais aussi la conception même de la signalétique tactile de la galerie?
Oui, merci d'amener ce point. En fait, Piet de Vos, un auteur belge qui est malheureusement décédé depuis le début de notre projet, de la conception de notre projet, que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises alors qu'il passait du temps à Montréal. Piet était un poète aveugle qui, entre autres, avait écrit un poème sur sa navigation à Montréal après une tempête de neige. Il parlait de naviguer sans compas. Et il a développé cet alphabet synesthésique parce que, ayant perdu la vue à l'âge de 5 ans, il avait en tête des couleurs et pour lui, chaque lettre, il l'associait à une couleur. Et quand il a appris que quand il écrivait en braille, sa dactylo braille ne produisait pas de couleur, ça l'a étonné. Donc, il a voulu développer un alphabet qui mélange à la fois des caractères latins et les caractères de braille. Donc, c'est un alphabet qui est à la fois pour les yeux et pour le toucher et qui incorpore aussi des couleurs. Et inspiré de cette démarche-là, on a créé une signalétique, une forme comme des écussons qui permettent de repérer les œuvres de chaque artiste qui sont à la fois accessibles au toucher et au regard. Mmh. Donc, ça a été vraiment important pour nous dans la conception, disons, du design, de l'orientation, de la navigation dans l'exposition, mais plus largement, une conception plus sur le plan conceptuel, en fait, de comment on s'oriente dans le monde.
L'exposition propose des descriptions en LSQ, langue des signes du Québec, en ASL, c'est American Sign Language, je pense qu'on dit.
Exact.
En audio et en braille. Au-delà de l'aspect technique, là, comment cette volonté d'inclusion transforme-t-elle l'expérience esthétique pour un visiteur qui n'a pas de limitation sensorielle particulière?
Alors oui, c'est une bonne question aussi. En fait, pour nous, la porte d'entrée vers les descriptifs des œuvres passe par les audiodescriptions. Donc, on a fait le choix de ne pas mettre de cartels. Des fois, dans des expositions, on va avoir des cartels explicatifs au mur qui donnent des descriptions des œuvres en format textuel. Pour nous, la porte d'entrée, c'est vraiment accéder aux vidéos qui incorporent à la fois l'audiodescription narrée, donc une voix orale, l'audiodescription en langue des signes, soit ASL ou LSQ. Et donc, c'est ça. En fait, il faut passer par ces modalités-là pour en savoir plus sur les œuvres. Donc, c'est aussi une occasion d'apprendre pour les personnes qui ne sont pas familières avec ces pratiques-là. C'est une façon d'être exposé à des pratiques d'accessibilité de cette sorte.
En fait, j'ajouterais, la langue des signes, c'est une langue qui possède toute une culture aussi pour avoir participé à des événements où c'était des poètes et des auteurs, autrices sourds qui présentaient leurs œuvres en langue des signes et c'était interprété pour nous. C'était vraiment intéressant comme expérience. Alors,
oui.
Je peux s'imaginer. Je voudrais parler aussi d'autres œuvres. On parle de celles de Roland Soulière ou de Salima Punjani qui font appel à l'odorat et au toucher. Alors ça aussi, on sort encore des sentiers battus avec ça.
Mm-hmm, tout à fait. Puis juste pour faire suite à ce que vous avez dit par rapport aux œuvres avec la langue des signes, il y a Véro Leduc qui a fait une œuvre qui est à la fois visuelle et tactile,
oui.
En fait, où elle utilise le chant signe, donc une forme de poésie en langue des signes. Oh. Et oui, effectivement, Roland Soulière, artiste qui a créé une œuvre vraiment olfactive qui nous invite à ouvrir des Rolodex, là, pour de ma génération. Qui
la mienne aussi.
C'est quoi un Rolodex? C'est ces anciens, c'est ces systèmes pour garder des cartes de contact avant l'époque numérique. Puis en fait, en tournant le Rolodex, ben, en fait, on a des effluves d'odeurs liées aux quatre médecines sacrées dans la culture Anishinaabe de l'artiste. Et Salima Punjani est une autre artiste basée à Montréal qui, elle, en collaboration avec une artiste écossaise qui s'appelle Greer Pester, elle a développé de nombreux coussins sensoriels, vibrants, qui évoquent les organes des sens, justement.
Et l'exposition donc a ponctué de nombreuses activités qu'on dirait public plus. On parle, en fait, de médiation culturelle ici, c'est ça?
Médiation culturelle, mais également des performances, des ateliers, donc vraiment des activités satellites, des activités connexes qui, pour nous, font partie, en fait, de la conception de l'expo.
Oui. Je terminerai en parlant de la collaboration avec des institutions comme la chaire de recherche de l'UQAM ou le Center for Sensory Studies de Concordia. Ça enrichit vraiment la démarche, la rigueur de la démarche commissariale?
Bien, pour nous, en fait, il faut vraiment remercier tous nos partenaires parce qu'on en a eu beaucoup. C'est un projet, je ne vous cacherai pas, qui est ambitieux et d'envergure. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce projet. Et même pour pouvoir réaliser, par exemple, les vidéos en ASL, LSQ, la chaire de recherche du Canada sur la citoyenneté culturelle des personnes sourdes et les pratiques d'équité culturelle a été d'un appui vraiment essentiel en nous fournissant l'accès aux interprètes et même on a pu filmer dans leurs locaux. Donc ça, c'est vraiment précieux. Et ça permet aussi d'inscrire cette démarche aussi dans le réseau de la recherche plus universitaire. Donc, on essaie de décloisonner également sur ce plan-là.
Oui. Alors, je termine en disant que le vernissage de Wayfinders au gré des sens aura lieu le 2 avril le prochain à 17h. Et l'exposition se poursuivra jusqu'au 16 mai au MAI. C'est situé sur la rue Jeanne-Mance. Merci beaucoup, Tamar Tembeck, d'avoir participé à cette émission.
Merci. Merci à vous. Au plaisir.
Au plaisir.
C'était la chanson « Aucune fleur » de Soleil secret.
Ben oui, ça c'est le thème de l'émission. Je pense que c'est l'émission la plus regardée au Québec. Du moins, là, les codes d'écoute, on ne les voit plus depuis un bout de temps, mais c'est l'émission indéfendable. Pourquoi? Parce que quand on regarde des émissions de télévision comme ça, on peut se faire des idées plus ou moins réelles de ce qu'est la justice, parce que c'est peut-être pas toujours aussi glamour, si vous me permettez l'anglicisme, mais aussi rapide. Donc, pour aider à démystifier tout ça, le samedi 28 mars se tiendra la deuxième édition de la journée Porte ouverte, visée droit. Cet événement gratuit invite la population à franchir les portes du Palais de justice de Montréal et de la Cour d'appel du Québec. Et pour en parler, je reçois Maître Valérie Assouline, qui est bâtonnière du barreau de Montréal. Maître Assouline, bienvenue. Merci d'être avec nous.
Merci, bonjour.
Oui, alors, le titre bâtonnière, je me suis dit, peut-être que je devrais commencer par poser cette question. C'est quoi la bâtonnière de Montréal, du barreau de Montréal?
En fait, bâtonnière, c'est la présidente du conseil d'administration et présidente du barreau de Montréal.
Et le barreau, ça sert à quoi?
En fait, le barreau, ça regroupe 17 000 membres, avocats et avocates à Montréal. Et l'objectif, la mission du barreau, c'est la protection du public, en fait.
Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer cette initiative lors des jours de la journée ouverte ou porte ouverte?
Eh bien, c'est très important pour nous que le public comprenne la justice, parce que lorsqu'on la comprend, eh bien, elle est accessible et c'est beaucoup plus c'est important pour le barreau de Montréal. Et une justice comprise, ben, c'est une justice qui est accessible. Voilà. Et l'an dernier, c'est la deuxième fois, la deuxième année que nous avons cette mouture-là où le palais de justice est ouvert, la cour d'appel est ouverte et accessible à tous les citoyens.
L'an dernier, c'était 2500 Montréalais qui ont répondu à l'appel, c'est quand même beaucoup. Alors, comment vous expliquez un tel engouement pour une institution souvent qui intimide le grand public, il faut le dire, là?
Oui, mais en fait, vous savez, comme vous l'avez mentionné au départ, les séries comme Indéfendables sont très populaires parce que c'est mystérieux, la justice. On veut comprendre, on veut voir qu'est-ce qu'il y a derrière les coulisses et c'est l'occasion idéale pour le faire.
Oui, c'est ça. C'est ça, attirant, oui. Le programme de cette année semble être ambitieux, du moins ce que j'ai vu. Les visiteurs auront accès à des lieux normalement restreints comme les greffes ou certains bureaux administratifs. Pouvez-vous nous décrire l'expérience d'une visite guidée au cinquième étage du palais de justice? C'est ce que les citoyens y découvriront cette journée-là?
Eh bien, ils verront des salles de cour, des greffes, des sous-sols ordinairement inaccessibles, avec des parloirs, les salles de télétémoignage, par exemple. Il y a également un nouveau circuit axé sur les services qui permettra aux visiteurs d'en apprendre plus sur la CAVAC, sur le jury pôle, se rendre à la bibliothèque du CAIJ. Il y aura des départs fréquents dès 10 heures du matin. Les visites sont d'une durée d'environ 45 minutes. Et on vous invite, en fait, à venir en famille parce que c'est vraiment une activité de famille qui va être c'est très intéressant. Il y aura également des procès simulés. Et la cour d'appel ouvre aussi ses portes.
Ben justement, on va y aller sur ces procès simulés. Le procès de la chasse-galerie. Alors, nul autre que l'acteur Sébastien Delorme qui joue l'avocat McDonald dans Indéfendable. Alors, parlons de ce procès que vous allez faire.
Eh bien, c'est un procès simulé où il y aura, c'est un vrai procès en fait, avec des acteurs et il y aura des vrais juges et ça va être ouvert au public. Il y aura des représentations, il y en a deux, je crois, dans la journée. Et ce sera une belle occasion de voir un procès en direct.
Oui.
Avec toutes les éclats qu'on connaît, en fait, avec Sébastien Delorme, qui est extraordinaire aussi.
C'est cher, Léo McDonald dans son rôle. Oui, parce que si j'ai bien compris, c'est que c'est un contrat signé avec le diable qu'on essaie de remettre en question, c'est ça?
Exactement. Et en fait, je vais pas vous donner plus de détails que ça parce que je veux que vous soyez présents, mais je peux vous dire que ça va être fort en émotion voilà.
En tout cas, ceux qui disent que les avocats sont plates, ils se trompent parce que c'est vraiment des bonnes
idées. Alors là, ils se trompent. Une chose qui est très importante également, c'est les consultations juridiques qui sont gratuites.
J'allais là justement avec Justice Pro Bono, c'est ça?
Voilà. Vous avez en fait 15 minutes avec un avocat. Et donc, il faut juste vous présenter avec les documents en main. Et en 15 minutes, il y a un avocat qui pourra répondre à vos questions et faire le tour, en fait, et vous donner des conseils. Alors ça, c'est vraiment une activité populaire et qui attire beaucoup de monde. On pense au domaine de droit, problèmes de logement, d'immigration, succession, des enjeux familiaux, affaires criminelles. Donc, voilà.
L'événement s'étend aussi à l'édifice qu'on appelle Ernest Cormier. Il y aura une discussion sur le droit criminel avec l'honorable Myriam Lachance et une séance questions-réponses animée par Paul Arcan avec des juges de la Cour d'appel. Ça aussi, on essaie de démystifier le droit et le travail des tribunaux.
Bien évidemment. En fait, vous savez, la Cour d'appel, d'abord, c'est cet immeuble majestique qui est sur Notre-Dame et qui ouvre ses portes. C'est un grand privilège pour nous d'avoir la collaboration de la Cour d'appel et avec les questions qui pourront être posées sur le droit criminel avec M. Arcan, c'est quand même une activité qui va être importante.
Alors, en plus de ces activités-là, il y a une zone qui regroupe de nombreux organismes comme Éducalois ou le SPVM, le service de police de la Ville de Montréal. Comment ces ressources aident-elles les justiciables au-delà de la seule journée du 28 mars?
Bien, au-delà de la seule journée, c'est finalement l'accès à la justice. C'est l'accessibilité à la justice. Et le barreau de Montréal voulait mettre en lumière ces organismes-là qui sont finalement là quand le justiciable a besoin d'aide. Et je pense que c'est quand même important de les faire découvrir au grand public.
Maître Assouline, vous avez été élu à la tête du barreau avec une volonté ferme de moderniser l'image de la profession, de renforcer les liens entre les juristes et la population. Vous êtes vous-même spécialisé en droit de la famille et en protection de la jeunesse. Vous avez l'intention de participer, de faire quelque chose de spécial dans cette journée-là, vous, personnellement?
Bien, c'est sûr que je serai là toute la journée. Pour moi, la bienveillance au cœur de la justice est très importante. Ça a été le thème de mon bâtonnat. Et je pense que c'est finalement c'est de la bienveillance pour moi. C'est une façon d'être bienveillant, d'être là pour les justiciables.
Bon, j'avais commencé avec le thème musical de Indéfendable. C'était un petit clin d'œil. Mais je pense qu'on a le temps. Je vous pose la question. Est-ce que c'est plus ou moins en accord avec la réalité ce que vous regardez ou si vous regardez Indéfendable?
Oui, à peu près, à peu près. En fait, oui. Et je vais vous dire qu'il y a aussi des juges qui regardent Indéfendable. Alors, c'est très intéressant et c'est très en accord avec la réalité. En fait, moi, c'est une émission que je suis rigoureusement.
Ah, ben c'est bon à savoir. Ben merci beaucoup, Maître Assouline, d'avoir participé à l'émission. Et je rappelle donc que cette journée porte ouverte, c'est ce samedi 28 mars au Palais de justice à la Cour d'appel ici à Montréal. Et merci beaucoup, Maître Valérie Assouline, bâtonnière du barreau de Montréal.
Merci.
Dans un article publié sur le site radiocanada.ca du 22 mars, le visage de l'autisme change au Canada. Longuement perçu comme une condition masculine, l'autisme est de plus en plus diagnostiqué chez les femmes à l'âge adulte, une tendance qui divise la communauté scientifique. À Montréal, des cliniques rapportent que les demandes d'évaluation sont passées de 2 par semaine à plus de 15 par jour en 15 ans. Ce décalage s'explique par le camouflage social, une stratégie où les femmes imitent les comportements neurotypiques pour se fondre dans la masse, souvent au prix d'une immense fatigue mentale. Si des expertes comme la neuropsychologue Julie Scora y voient un rattrapage historique nécessaire, d'autres comme le psychiatre Laurent Motron craignent que l'élargissement du spectre ne transforme l'autisme en une étiquette par défaut pour expliquer toute différence sociale. Pour les femmes concernées, toutefois, ce diagnostic tardif est souvent vécu comme une libération identitaire après des décennies d'incompréhension. Le ratio historique de diagnostic était de 4 garçons pour une fille, mais des études récentes suggèrent que la réalité se rapproche de 3 pour 1, voire 2 pour 1. Une étude de 2020 a démontré que les enseignants sont significativement plus enclins à suggérer une évaluation pour l'autisme si le prénom sur la fiche de l'élève est masculin, à symptômes égaux, évidemment. Peut-on pédaler pour freiner le déclin cognitif, toujours dans la presse cette fois-ci du 22 mars? C'est la question au cœur d'une étude d'envergure menée par l'Hôpital juif de réadaptation de Laval par des chercheurs de l'Université McGill. Le projet cible des patients comme Linda Cormier qui, après avoir subi un accident vasculaire cérébral, s'entraîne intensivement pour prévenir la démence. Les statistiques sont frappantes. Un patient sur 5 développe des troubles cognitifs majeurs dans 5 ans suivant un AVC. L'activité physique n'est plus seulement une question de forme cardiaque, elle agit comme un bouclier biologique en améliorant le flux sanguin cérébral et en stabilisant la barrière de protection du cerveau. L'exercice pourrait ralentir l'accumulation de protéines toxiques liées à la maladie d'Alzheimer. des études de des programmes novateurs comme celui du Centre EPIC de l'Institut de cardiologie de Montréal intègre désormais le sport, la nutrition et l'entraînement cognitif pour offrir une prise en charge concrète là où auparavant les patients étaient simplement laissés à eux-mêmes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Moi, je serai de retour à 17h aujourd'hui pour l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Et on reçoit entre autres Wissem Belgacem, grande vedette du foot en France, qui va nous parler de son livre et de sa sortie du placard en tant que personne musulmane, en tant que franco-tunisien, dans un monde qui n'est pas toujours ouvert. On va parler aussi de l'amour avec un grand A quand on est un homme gay avec une déficience intellectuelle légère. Hein, des sujets intéressants. Alors, je remercie Mathieu Tessier à la régie. Merci à Hélène Denis qui m'a aidé à la recherche et qui sera de retour demain pour Au quotidien. Moi, je m'appelle Denis Martin Chabot. À la prochaine.